Mais j'en viens à la guerre en Ukraine. Donc il y a cette grande déprime qui est en train de gagner les Russes, surtout après la débâcle de Kherson. Le retrait des troupes russes a commencé. Les Ukrainiens confirment qu'ils avancent encore. 12 localités de la région reprises par les Ukrainiens ces dernières heures. 7 kilomètres d'avancée vers la ville de Kherson. Sauf que tout ça est en train de déprimer même les plus zélés des propagandistes russes, comme le journaliste Andrei Norkin, journaliste de la télévision d'État russe, qui ne sait plus quoi dire à ses téléspectateurs.
Si je soutiens la décision du ministère de la Défense et si je dis qu'il agit correctement en quittant Kherson, alors j'appelle publiquement à la violation de l'intégrité territoriale de la Russie. Dans ce cas, j'ai spécialement vérifié ce matin, j'encours plusieurs années de prison. Et si à l'inverse, je ne soutiens pas cette décision et pense que le ministre de la Défense a pris la mauvaise décision en quittant Kherson, alors je discrédite publiquement les forces armées et j'ai approximativement la même peine de prison. Je ne veux pas aller en prison.
Ça rend fou.
Elsa Vidal, je résume ce que dit ce journaliste. Si je soutiens le départ de Kherson, c'est mal parce que je soutiens une amputation du territoire russe d'une certaine manière. Mais si je critique la décision de l'armée russe d'être partie, bah c'est mal, c'est antipatriotique.
Oui.
Donc ce présentateur, très connu aussi en Russie, hein, on l'a moins vu sur nos antennes, lui, Norkin, mais très connu aussi, bah, il est paumé.
Bah, il exprime, je pense, la contradiction que doivent ressentir une grande partie des téléspectateurs russes à qui, effectivement, cette soupe est servie. Et en ce faisant, en fait, il va essayer ensuite de la déminer, d'expliquer comment, finalement, il arrive à dépasser cette contradiction. C'est quand même un mode de réflexion qui est assez typique de l'héritage soviétique. Hein, d'abord étaler les contradictions, puis trouver comment elles se résolvent. La grande différence dans son cas, effectivement, c'est que il y a une indication très claire du chemin à suivre, puisque Sourovikin, le nouveau général en chef, a proposé au ministre de la Défense, qui a accepté cette option de retrait de Kherson. Donc, le choix politique est fait, en fait, pour lui. Mais c'est vrai qu'il se trouve dans une injonction contradictoire, qui est aussi la situation de la plupart des Russes, et qui crée beaucoup de tensions, beaucoup d'inconfort. Pour nombre d'entre eux, ils savent très bien, malgré tout, qu'on leur cercle un discours qui est en décalage avec le réel. Ils acceptent de s'en accommoder.
Mais... Alors, autre extrait, Soloviev, qu'on a beaucoup plus vu
notre héros.
Sur nos antennes. Voilà, j'irai pas jusque-là, Antonin André.
Parce que anti-héros,
mascotte.
J'irai pas jusque-là, Antonin, mais Soloviev, lui, dit, effectivement, il est pris dans la même contradiction, mais il dit attention, c'est une décision militaire.
Exactement.
C'est pas une décision de Vladimir Poutine, regardez.
C'était une décision difficile. Dans l'histoire de notre pays, il y a eu de nombreuses périodes douloureuses. Quand les dirigeants politiques ont pris le contrôle du processus militaire. Comme en 1941, quand Staline, et ce malgré les recommandations insistantes de Zhukov, a rejeté l'option de retirer les troupes de Kiev et de ne pas défendre Kiev. Et nommé, Zhukov a été viré, un autre commandant a été nommé, et finalement cela a amené à l'encerclement de plus de 800 000 soldats soviétiques.
Décision militaire, Lise Gosset.
Oui, mais vous avez eu le parallèle entre Staline...
Ah bah oui.
Et Poutine.
Et Poutine.
Alors, c'est vrai que là, Poutine n'est pas apparu à la télévision. Il a laissé faire le job qui n'est pas facile au ministre de la Défense et au commandant de l'opération, le général Sourovikin. Mais effectivement, le parallèle est quand même un peu saisissant. D'abord, on avait l'impression d'être à Confesse, avec cette scène extraordinaire. Soloviev au milieu, habillé de noir, et tous les autres qui sont autour et qui écoutent le prêtre sermon de la télévision. Mais moi, je suis surtout frappé par ce parallèle avec les années staliniennes. Et avec, effectivement, la manière dont Staline a géré cette guerre en limogeant et en faisant fusiller ses généraux. Mais il faut comprendre les Russes. Vous savez, on parlait du Zoloft et des tranquillisants qui sont en rupture de stock dans les pharmacies. Non seulement il faut accepter cette guerre que personne ne comprend, et ça, si vous voulez, j'ai entendu l'autre jour un ancien ambassadeur de Russie en France qui nous a dit droit dans les yeux... Cette guerre est incompréhensible. On ne peut pas comprendre qu'on puisse faire la guerre à nos propres frères, puisque dans la logique, les Ukrainiens sont nos frères, disait-il. Et donc, c'est pas facile à comprendre, c'est pas facile à expliquer à la télévision en particulier, mais il y a presque pire qu'une guerre qu'on ne peut pas expliquer, il y a une guerre perdue. Mmh. Et là, on est dans la logique d'une guerre perdue, de plus en plus. Donc oui, on comprend les difficultés des présentateurs qui ont, pendant les 9 derniers mois, ont essayé de convaincre les Russes que c'était une bonne décision de la part de Poutine. Ce que je constate quand même, c'est que Poutine est absent.
Mmh. Silencieux même.
Invisible et silencieux.
Voilà, donc on voit bien que c'est difficile et que le maître envoie ses conseillers en première ligne pour ne pas être accusé lui-même d'être responsable de la défaite.
Tout à fait. Oui, moi juste rajouter, parce que moi j'ai regardé la totalité de l'émission dont vous avez passé un extrait, et là effectivement vous avez montré le moment où en fait il était un peu le plus en difficulté. Mmh. Mais sinon, pendant tout le reste de l'émission, il justifie, donc il fait un parallèle avec 1941, mmh. mais il fait aussi un parallèle avec l'invasion française de 1812, mmh. avec l'invasion polonaise du XVIIe siècle, mmh. et il dit en fait on recule pour mieux réavancer. C'est ça aussi qu'ils veulent raconter. Ils racontent aussi toutes sortes de choses vis-à-vis de la Chine. Alors notamment dans cette émission, vous avez plusieurs spécialistes autour de la table qui disent en gros mais vous allez voir là les tensions sont en train de monter entre l'Occident et la Chine, mmh, mmh. et la Chine, alors c'est au conditionnel, enfin c'est vraiment ils sont sûrs de rien, de toute façon ils sont en train de raconter un peu n'importe quoi, mais en gros ils disent peut-être que la Chine va entrer aussi en guerre et enfin nous aider, parce que la Chine c'est le premier allié de la Russie et blablabla, et blablabla. C'est donc il y a effectivement ces moments en fait d'hésitation, etc. Mais globalement, la propagande russe, elle est encore là et bien là, et elle est bien solide pour bourrer le crâne des Russes.
Pour rebondir sur ce que dit Pablo, moi ce que je trouve fascinant dans cette séquence, c'est à quel point cette propagande est tenue. C'est-à-dire que tout le narratif, y compris ses présentateurs et ses éditorialistes, mais aussi Prigogine et Kadyrov, qui eux aussi ont justifié publiquement, alors que c'était des ultras qui expliquaient que les militaires étaient des mauvais et que c'était à cause d'eux et de leur lâcheté que les Russes ne progressaient pas. Et eux-mêmes sont exactement dans le même récit de justifier le courage de cette décision, qui est une décision qui est faite pour protéger. C'est une décision douloureuse, mais qu'elle est salutaire pour la Russie dans ce moment de la guerre. Et ce qui est fascinant, je trouve, c'est l'ensemble du narratif qui, du début à la fin, est quand même magistralement tenu, de la communication du ministre de la Défense au speaker de la télévision russe et au faucon russe.
Et alors, Soloviev, dans cette émission, il fait aussi des propositions mais absolument drastiques, où il dit il faut absolument une censure absolue de toute critique du gouvernement et de Vladimir Poutine. Il faut que les blogueurs, notamment les blogueurs qui critiquent et qui s'intéressent en fait aux stratégies militaires, il faut qu'ils se taisent, et absolument. Que s'ils ne sont pas d'accord avec ce que fait Vladimir Poutine avec les actions militaires en Ukraine, eh ben ils ont qu'à prendre les armes et devenir volontaires.
Mais ce sont exactement les instructions en fait écrites qui ont été passées aux chaînes d'État en fait par l'administration présidentielle, et qui visent spécialement l'éloignement de ces blogueurs pour qu'on revienne à quelque chose de plus consensuel en plateau. Et ce sont des instructions qui ont été divulguées par un média qui s'appelle Medusa, qui est basé à l'étranger et qui publie certainement les informations les plus précises avec beaucoup de sources de l'intérieur.